La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
À 5 jours des élections législatives en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est solidement installé en tête des sondages.
Et c'est à croire que vraiment plus rien ne peut arrêter sa course vers un 5e mandat à la tête du pays. Ça désespère, franchement, il faut bien le dire, le journal Haaretz. Le quotidien de la gauche israélienne publie aujourd'hui 3 bonnes raisons de ne pas voter Netanyahou. Mais il est bien forcé de constater, avec ce dernier sondage donc qu'il a fait lui-même réaliser, que la droite enragée menée par Bibi creuse encore l'écart avec son rival, le leader de centre-gauche et général Benny Gantz. Selon donc Haaretz, le Premier ministre serait prêt à tout pour vendre sa patrie pour que son parti, le Likoud, et ses probables alliés de la coalition de droite dure remportent la majorité mardi prochain à la Knesset et lui assure une réélection à la tête du gouvernement. C'est sa seule chance de ne pas se retrouver en prison tant les affaires de corruption et de détournement de fonds publics s'accumulent autour de lui. La dernière en date, révélée par le Huffington Post, accuse Benjamin Netanyahou d'avoir racheté à l'un de ses cousins en 2007 une société texane qui jusqu'en 2008 a fait des affaires avec la Libye de Muammar Kadhafi en violation de l'embargo américain. Netanyahou, affirme le HuffPost, ne pouvait ignorer ses contrats libyens et quand il a revendu la société en 2010, il a fait une plus-value de 700%.
Et voilà qui ajoute une page de plus au dossier judiciaire du Premier ministre.
À lire le Times of Israel, on comprend que ce dossier est particulièrement épais et se décline en numéros 1000, 2000, 4000, 3 affaires de corruption pour lesquelles la justice israélienne devrait prochainement mettre Benjamin Netanyahou en examen. S'y est ajouté récemment le scandale dit du sous-marin, soupçon de détournement de budget de l'armée dans le cadre de l'achat d'armes à l'allemand ThyssenKrupp. C'est le dossier 3000, résumé pour nous par le Times of Israel, qui fait donc sa une tout de même sur d'autres chiffres. Aujourd'hui, les chiffres, on y revient, des derniers sondages. Ils donnent l'alliance entre le Likoud et les partis de droite dure à 67 sièges à la Knesset contre 53 pour la coalition de centre-gauche dite des Blancs-Bleus. La droite sent déjà le parfum de cette large victoire. Ça donne des boutons à Haaretz. Mais ce qui retient l'attention du quotidien de droite Yediot Aharonot, c'est le fait que les partis religieux, si les sondages se confirment, vont être largement surreprésentés à la Knesset. Ils devraient avoir beaucoup plus de poids politique que le poids démographique des communautés religieuses dans une population israélienne majoritaire sécularisés. Les religieux libéraux de gauche comme de droite arriveront-ils à s'unir comme semble le souhaiter le Yediot Aharonot pour ne pas laisser le monopole des questions de religion aux ultra-orthodoxes? Ce sera l'un des enjeux des législatives de mardi. Une élection que Netanyahou et la droite peuvent encore perdre. C'est l'avertissement lancé sur Harutz Sheva, la radio proche des sionistes religieux, par l'ex-ministre Gideon Saar. Il alerte son camp sur le risque d'une forte abstention due à la lassitude des électeurs du Likoud. Elle pourrait bien priver le Premier ministre d'une réélection et le livrer à la justice de son pays.
Et puis il y a des signes qui ne trompent pas, Camille. Le Royaume-Uni se prépare à un Brexit sans accord qui pourrait intervenir dès le 12 avril.
Et le 12 avril, c'est dans une semaine. Petit rappel, d'ici là, les députés de la Chambre des communes n'ont pas voté l'accord de Brexit de Theresa May ou bien s'ils n'ont pas proposé une solution alternative qui dégage une majorité, alors la sortie de l'UE se fera sans accord préalable et vous ne pouvez même pas imaginer le bazar que ça va être dans tous les domaines. Du coup, comme les politiques britanniques semblent vraiment incapables de trouver une solution, eh bien les entreprises qui font des affaires avec l'Europe tentent, avant qu'il ne soit trop tard, de s'assurer que le business pourra continuer as usual et qu'on se rassure, the TV show will go on. C'est ce que nous dit en substance Bloomberg qui nous annonce que la vénérable BBC a pris le taureau du no deal Brexit par les cornes. Elle réfléchit très sérieusement à placer certaines de ses licences de diffusion audiovisuelle aux Pays-Bas. Le bras commercial de la BIB délocaliserait donc ses activités de diffusion pour ne pas se retrouver dans 8 jours empêché de vendre ses séries à succès aux pays de l'Union Européenne. Doctor Who, par exemple, ne devrait pas rester bloqué à la frontière. Voilà qui va rassurer des millions de téléspectateurs européens. Bloomberg nous apprend tout de même que la BBC n'est pas le premier groupe audiovisuel à faire ce choix de délocaliser ses chaînes aux Pays-Bas. Discovery, NBC, Viacom en ont déjà fait autant, mais quand c'est une institution comme la BBC, la tantine, comme la surnomme le Daily Mirror, qui se prépare à quitter le navire, c'est un sacré symbole pour les Britanniques.
Et vous avez raison, apparemment Catherine Dutu est tout à fait rassurée par le fait que Dr. Wu ne craint rien. Moi je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Alors on va passer à autre chose. L'Indonésie a fait un choix économique lourd de conséquences pour préserver la plus célèbre de ses espèces animales.
Et ça c'est à lire ce matin dans The Guardian. L'info s'étalait tout de même, c'est vrai, déjà depuis quelques jours dans la presse indonésienne, les les autorités de Jakarta ont décidé de fermer l'île de Komodo aux touristes pour toute l'année 2020. A priori, forcément, quand je vous dis Komodo, vous pensez à ces énormes varans, ces dragons de Komodo qui font de l'île une destination touristique incontournable sur l'archipel, un saurien aux œufs d'or pour l'économie indonésienne, mais aussi une ressource menacée justement par son succès. Figurez-vous que tout récemment, un réseau de trafiquants de varans de Komodo a été démantelé. Ils tentaient de faire sortir de l'île 41 bébés lézards géants pour ensuite tenter de les revendre au marché noir. Alors ne me demandez pas qui pourrait avoir l'idée d'adopter un dragon de Komodo quand on connaît leurs dimensions à l'âge adulte et la dangerosité de leur morsure. Mais tout est possible en ce bas monde. Et donc, le nombre de dragons de Komodo connaît une chute inquiétante ces dernières années. Il n'en resterait que 5000, ce qui, pour une fréquentation moyenne d'1,5 million de touristes par an, ne fait, c'est vrai, pas beaucoup. Les autorités indonésiennes font donc le choix de fermer, a priori donc pour un an, l'île de tout touriste pour laisser aux varans la possibilité de se reproduire tranquillement. Il faut aussi constituer la population des biches qui sont le mets favori des dragons et qui, elles aussi, souffrent non pas du trafic mais de la surexploitation touristique.
Merci Camille Bagnard, 7h44 sur France Culture.